Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Avertissement, cet épisode évoque ma sexualité. Bonjour à tous et bienvenue dans Marie sans filtre. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 27 ans et j'habite chez mes parents en banlieue parisienne. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme, cisgenre, célibataire, pansexuelle, blanche, jeune, mince, valide et athée. Marie sans filtre est mon podcast intime féministe et politique. Ici, je raconte mes expériences personnelles afin de déconstruire le patriarcat. Je sors un épisode chaque deuxième vendredi du mois. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon expérience à l'hôpital. Dans ce 40e épisode, je veux parler de la sexualité des personnes hospitalisées parce que j'ai été l'une de ces personnes et que c'est encore un sujet tabou, interdit. Mais avant de vous raconter ma vie, je cite un commentaire reçu au sujet de mon podcast, justement, c'est mon nouveau rituel. Je veux citer Elsa qui, le 14 novembre 2021, a laissé le commentaire suivant sur ma cagnotte Tipeee. J'ai l'impression de mieux me comprendre par ta voix. Ton talent, ton courage et ta soif de vie me donnent de la force. Je t'envoie du soutien et du love. Merci beaucoup Elsa pour ce beau commentaire, pour ton soutien, ton love et ton soutien financier. Vous autres auditeurices, si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un avis différent ou similaire sur mon Tipeee ou bien sur votre plateforme d'écoute, histoire que je vous lise dans un prochain épisode. Je reviens maintenant au sujet du jour, je fais l'amour à l'hôpital, comment, pourquoi ? Je vous explique tout. Alors en 2017, j'ai été hospitalisée à deux reprises. La première fois, c'était pour subir une opération du genou à la suite d'un accident de rugby. Et la deuxième fois, c'était aux urgences à cause d'une mononucléose non diagnostiquée. Donc, en 2013, donc 4 ans avant ça, j'ai eu un accident de rugby. J'ai mon ligament croisé antérieur du genou droit qui a pété. Et je ne suis pas allée me faire opérer parce qu'à l'époque, le chirurgien m'a dit qu'il n'y avait pas besoin. Et les années ont passé et en fait... Début 2017, j'étais dans un bar à Bruxelles en train de danser et j'ai sauté en l'air et en réatterrissant sur mon pied droit, en fait, il y a ma rotule qui s'est barrée. C'était horrible et donc j'ai eu super mal, elle s'est remise en place et en fait du coup il y a mon ligament de la rotule qui a commencé à déconner. J'ai eu à partir de janvier 2017 tout le temps des accidents d'instabilité du genou avec la rotule qui se barrait, avec mon genou qui se déboîtait, enfin c'était ignoble. Et j'étais étudiante à Lille à cette époque-là. Et en plus, il y a mon ménisque qui a commencé à se fissurer. Enfin, ça se trouve, ça avait commencé avant. Donc, j'ai décidé de me faire opérer en septembre 2017 pour réparer le ménisque, renforcer le ligament de la rotule et fabriquer un nouveau ligament croisé antérieur. Donc, c'était quand même une grosse opération que j'ai faite à Antony, à l'hôpital privé d'Antony, c'est dans le 92. Et ensuite... j'ai été passer 6 semaines dans un centre de rééducation à Châtillon, c'est aussi dans le 92, donc dans les Hauts-de-Seine à côté de Paris. Et voilà. Et la deuxième fois que j'étais hospitalisée, c'était parce qu'en fait, j'ai en décembre 2017, donc genre 2 mois après ma sortie du centre de rééducation, j'étais à Sciences Po Lille pour ma cérémonie de remise des diplômes et on allait en boîte de nuit. J'ai chopé un mec et j'ai couché avec lui. Un mec cis hétéro, et en fait, il avait la mononucléose. Enfin, à l'époque, je pensais juste qu'il avait un rhume. Et du coup, il m'a filé la mononucléose, sauf que je savais pas que c'était la mononucléose. Et je suis allée voir une médecin, j'ai eu des symptômes d'angine, en fait. Et j'avais super mal, je suis allée voir la médecin, et elle m'a pas fait le test de l'angine pour savoir si c'était une angine infectieuse ou pas. Sinon, elle aurait su que c'était pas une angine infectieuse. Et du coup, elle m'a prescrit des antibiotiques qui servaient à rien vu que c'était une mononucléose. Et j'ai pris de l'amoxicilline, sauf qu'il faut jamais prendre d'amoxicilline quand on a une mononucléose. Parce que du coup, ça a créé un rash cutané, ça s'appelle. Donc, il y a une réaction allergique. Donc, j'ai commencé à avoir des points rouges sur les jambes qui étaient super bizarres, qui gonflaient et tout. Et donc, je suis allée voir une autre médecin. Elle savait pas ce que j'avais. Personne n'a su que j'avais la mononucléose. Et donc, elle m'a envoyée aux urgences. Et là, j'ai passé genre 3 jours aux urgences, sauf que c'était Noël. Donc, c'était trop chiant. Enfin, j'ai passé 3 jours à l'hôpital parce que aux urgences, on n'y passe pas 3 jours. Et à Versailles. Et en fait, ils m'ont fait des milliards d'analyses. Ils m'ont fait genre une ponction lombaire parce que ça ressemblait, enfin ce que j'avais, ça ressemblait à un purpura. Ils avaient peur que j'ai une méningite. Du coup, ils m'ont fait une ponction lombaire. Donc c'est super chelou à faire. J'avais super peur que ça me fasse mal, mais en fait le mec qui m'a fait la ponction lombaire était super doué, donc j'ai rien senti. Et ils m'ont fait des tests genre VIH. Enfin, ils m'ont fait un milliard de trucs. Ils me faisaient des prises de sang tout le temps, et en fait j'avais rien. Et donc, ils m'ont redonné d'autres antibiotiques pour l'angine parce que j'étais quand même super malade. Et quelques mois après, parce que j'ai fini par réussir à sortir parce que je devais travailler 2 jours après, donc j'ai supplié, j'ai dit, s'il vous plaît, vous pouvez me laisser sortir sans savoir ce que j'ai. Et genre, quelques mois après, j'étais à un stage d'autodéfense. Je sais, je vous raconte ma vie, mais c'est hyper intéressant comme histoire. Après, je reviendrai au sujet de l'amour à l'hôpital. Et quelques mois après, j'étais à un stage d'autodéfense. Et là, je rencontre une meuf... qui s'appelle Mathilde, et on va boire des coups après le stage d'autodéfense, et puis il y a ses potes qui arrivent, et en fait, ils étaient étudiants en médecine, étudiantes en médecine aussi, c'était un mec et une meuf. Et donc, je leur raconte une histoire de trucs trop bizarres à l'hôpital, de purpura, de jambes bizarres, de médecins qui savaient pas ce que j'avais, et puis je rajoute que j'ai pécho un mec à Lille, parce qu'en fait, je l'avais pas dit aux médecins. Enfin, je raconte pas ma vie sentimentale et sexuelle quand je vais voir les médecins, quoi. Et là, ils me disent, mais en fait, ce que t'as fait, c'est un rash cutané. T'avais probablement chopé la mononucléose. Et quand on a une mononucléose, il faut jamais prendre d'amoxicilline, sinon ça crée cette réaction allergique. Et je dis, mais comment je peux savoir si j'ai vraiment eu la mononucléose? Enfin, ce que vous me dites, ça a l'air vrai, mais comment est-ce que je peux vérifier ça? Et ils m'ont dit, bah, essaye d'aller voir à l'hôpital où t'as été hospitalisé s'ils ont toujours ton sang. Comme ça, tu pourras analyser le sang et demander s'il y a la mononucléose dedans. Et du coup, je suis allée à l'hôpital. Et en fait, effectivement, ils avaient gardé mon sang. Et donc, avec une ordonnance de mon médecin, ils ont pu diagnostiquer que j'avais bien eu la mononucléose. Et donc, c'était bien à cause de ça que j'avais eu mon rash cutané. Et donc, ça, c'est quelques mois après, juste grâce à des étudiantes en médecine que j'ai rencontrées. Sinon, j'aurais jamais su que j'avais eu la mononucléose. Et petit fin mot de l'histoire, mon frère a eu la mononucléose il y a quelques mois. Et pareil, il a eu des symptômes d'angine. Donc, faut pas croire que la mononucléose, c'est juste genre on est fatigué. Pendant des mois, ça peut être aussi une énorme angine blanche et sans bactéries, quoi. Bref, super intéressant. Donc, je vais pas raconter dans cet épisode cette histoire aux urgences parce que du coup, je n'ai pas baisé aux urgences et que ça a duré que 3 jours. Mais par contre, Je me concentrerai sur mon expérience post-opération du genou. Donc, je me suis fait opérer en septembre 2017. Et après, j'ai passé 6 semaines en centre de rééducation. Et pour moi, j'assimile le centre de rééducation à un hôpital. Car le fonctionnement est le même. Nous, les patients-patientes, on est interdit de sortie, de sexualité, d'un tas d'autres choses. On est malade, handicapé ou en rémission. Donc en 2017, en tout, j'ai passé 54 jours à l'hôpital et je raconte tout ça dans un article de mon blog intitulé justement 54 jours à l'hôpital, dont je mets le lien dans la description de cet épisode si tu veux lire, parce qu'il y a des gens qui aiment bien lire. Voilà, donc au centre de rééducation de Châtillon, dans le 92, dans les Hauts-de-Seine, j'ai séjourné de septembre à octobre 2017 pendant 6 semaines. Et là-bas, j'ai rencontré un mec cis-hétéro blanc qui s'appelle Michael. Il a 8 ans de plus que moi, il est amputé du pied droit après un accident de parapente au niveau de la cheville, donc il a plus son pied droit, et on tombe amoureux-amoureuse, et on sort ensemble pendant 1 an, ce qui est assez fort quand on sait qu'il habite à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et moi à Paris. Nos vies, elles sont bien différentes, on vient de milieux socio-économiques totalement différents, on n'a pas le même âge, lui il est handicapé, moi pas, on ne fait pas du tout le même métier. Et dans cet épisode, je parle de sexualité, donc pas de relation longue distance, donc vous ne saurez pas le reste de ma relation avec Michael. Mais voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est quand j'arrive dans le centre de rééducation, il y a énormément de personnes amputées, puisque c'est un centre qui est réputé pour ça, ou juste parce que dans les centres de rééducation générale, il y a beaucoup de personnes amputées parce qu'il faut qu'elles apprennent à marcher avec leur prothèse. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont fait des AVC. Et donc, moi, je suis en mode opération du genou. Ils ont passé 6 semaines là, donc je suis pas vraiment... Enfin, je suis diminuée, genre je suis en béquille et tout, j'ai super mal au genou, mais franchement, je suis quand même là pour passer du bon temps, donc je parle à tout le monde. Et il y a pas mal de vieux, il y a pas mal de jeunes, ça c'est cool. Et donc, parmi les gens qui dorment sur place, je remarque ce mec qui me regarde, me mate... à la cantine, et genre, j'en ai rien à foutre de lui, genre, je le trouve pas très intéressant physiquement, mais les jours passent et je me dis, tiens, je vais le pécho, parce que, voilà, c'est trop drôle quand même, et finalement, il est mignon, et il est plus petit que moi, mais bref, et donc à une soirée, parce qu'en fait, il y avait un mec qui quittait le centre de rééducation, et donc on faisait une soirée au rez-de-chaussée du centre de rééducation, mais c'est pas une soirée, c'est genre, on boit du coca et on mange des bonbons jusqu'à 21h, tu vois. Et sans musique. Et donc là, la soirée passe et tout le monde va se coucher. Et après, je reste moi, Michael et le mec qui faisait sa soirée de goodbye. Et au bout d'un moment, je dis au mec qui fait sa soirée de goodbye, est-ce que tu peux partir? Parce que là, il se passe quelque chose entre Michael et moi. Enfin, tu vois, on était bourrés sans alcool. C'était la fin de la soirée, quoi. Il était 21h, 22h. Et donc, le mec part. Et donc, après, Michael me dit, viens, on va à la piscine parce qu'il y avait une piscine. Genre, je sais où ils mettent les clés et tout, donc il fait semblant... Enfin, on va vers la piscine et il veut genre faire un truc romantique, tu vois, qu'on aille à la piscine de nuit alors que c'est interdit. Et moi, je suis en mode, pas chaude, je fais, non, on va pas à la piscine. En plus, moi, j'ai été opérée depuis une semaine, enfin, de toute façon, je pouvais même pas aller à la piscine. J'avais un bandage et tout. Et en plus, il y a le gardien qui arrive à ce moment-là, tu sais, comme dans un film, et je fais, Michael, il y a le gardien qui arrive. Du coup, il avait ouvert la piscine, il commence à fermer la piscine, et puis au moment où le gardien arrive, moi je fais diversion près du gardien, je le bullshit, et après Michael, il a le temps de reposer la clé et de refermer la piscine et tout. Donc finalement, on va dans sa chambre, et qui n'était pas du tout au même étage que ma chambre à moi, et on baise. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... À mon étage, en fait, il y a l'aide-soignante qui était ma pote aussi, qui vérifiait en fait que les gens étaient dans leur chambre à 22-23 heures, et donc les heures passent et elle doit voir qu'il y a personne dans ma chambre, et donc à 4h du mat ou à 2h du mat, enfin je sais plus à quelle heure, elle vient toquer à la chambre de Michael parce que j'avais dû lui parler de Michael, et donc elle a dû se dire bon, ça se trouve elle est en train de baiser avec Michael, et donc Michael il avait genre mis la table devant la porte pour que personne ouvre parce qu'on peut pas fermer nos chambres à clé. Et donc elle était en mode, est-ce que Marie est là? Et Michael dit ouais. Enfin, tu vois, on était en train de dormir, c'était trop chiant. Et après, elle dit, mais il faut que Marie, elle rentre dans sa chambre parce qu'à 7h, il y a les aides-soignantes du matin qui vont lui donner le petit-déj. Et si elle n'est pas dans sa chambre, c'est mort. Vous allez vous faire défoncer. Donc après, j'ai dû retourner dans ma chambre, genre à 4h du mat. Et puis, c'était trop chiant.
This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Donc, on couche ensemble dans le centre de rééducation à l'insu du personnel soignant et cela pose un certain nombre de problèmes. Mais en fait, comme je viens de te le dire, on est grillé par le personnel soignant en quelques heures à peine, puisque tout se sait dans ce genre d'endroit. Et on doit se cacher dans la chambre de l'un ou de l'autre pour baiser. Et étant donné nos handicaps, lui, son amputation et moi, mon opération du genou, c'est pas du tout facile de changer de position dans le lit. En plus, Michael, il passe beaucoup de temps à dormir la journée parce qu'il n'arrive pas à dormir la nuit, je crois, et donc il n'est pas souvent disponible. Et moi, comme vous le savez, j'ai un gros fond dépendance affective, donc je tombe amoureuse de lui, enfin dépendante affective, et je lui envoie plein de SMS et il met des heures à répondre. Et genre, je me rappelle qu'un jour, c'était le week-end, parce que moi, je passais des week-ends au centre de rééducation. Et lui, il était jamais là le week-end. Après, je rentrais chez mes parents, mais je sais plus, ce week-end-là, j'étais au centre de rééducation et je prends une feuille de papier et j'ai écrit tous nos SMS, genre l'échange de SMS complet, parce qu'on s'écrivait pas beaucoup, donc ça faisait pas non plus 10 000 pages. Donc j'ai écrit tous les échanges de SMS, genre en mode, c'est trop bizarre de faire ça, tu sais, pour me remémorer le moment où il m'a envoyé ce SMS, ça m'a fait trop plaisir. Et pour faire genre, on avait une vraie relation, je me dis, ah, à la fin, oh, ça fait quand même 2 pages, waouh, on a une vraie relation. Tu vois, j'étais vraiment à fond, sachant que je le connaissais pas et que 2 semaines avant, je le trouvais pas beau, tu vois. Et bref, quelques semaines après notre rencontre, le mec quitte le centre de rééducation. Donc, il me rend visite fréquemment parce qu'il est resté sur Paris. Et à un moment, il passe même une nuit dans ma chambre, sachant qu'il n'a pas du tout le droit de dormir au centre de rééducation alors qu'il n'est plus là. Hein. Et il a le droit de me rendre visite, mais la journée. Et donc, la nuit, une fois, il reste, on dort ensemble. Et le matin à 7h, quand il y a les fameux aides-soignants qui passent pour me donner mon petit-déj, il se cache dans la salle de bain, qui est microscopique. Et il suffit que la personne... Mais même, ça, on l'a fait plusieurs fois. Je crois qu'il a dormi plusieurs fois comme ça. Et donc, la personne, l'aide-soignante, il suffit qu'il ouvre la salle de bain pour le cramer. Enfin, tu vois, il n'y a pas de verrou nulle part. Nulle part. Et enfin, peut-être dans la salle de bain, mais si vous voyez que la salle de bain est fermée, il se douterait de quelque chose, l'aide-soignant, tu vois. Donc, bref, j'ai l'impression qu'on est des ados interdits de nous retrouver dans l'illégalité, quoi. Enfin, tout est fait pour empêcher la sexualité, même quand c'est des personnes hétéros, même quand c'est des personnes, imaginons, mariées. À l'hôpital, en fait, c'est un impensé. Et pour moi, je relis vraiment ce tabou au validisme, à la discrimination que subissent les personnes handicapées, parce que lorsqu'on est hospitalisé, on est momentanément handicapé, privé de nos mouvements. Notre mauvaise santé ne nous permet pas, aux yeux des personnes valides, de la société valide, d'avoir une libido, apparemment, et encore moins d'avoir des relations sexuelles. Or, certaines personnes passent des mois, voire des années à l'hôpital, en centre de rééducation ou en institution pour personnes handicapées. Et le droit fondamental d'avoir des relations intimes avec autrui, il leur est complètement dénié au nom de leur intérêt. Parce que pendant mon hospitalisation, j'avais l'impression d'être infantilisée. On m'empêchait par exemple de suivre mon régime vegan, enfin, on me culpabilisait tout le temps, et du coup je mangeais végétarien parce que c'était impossible. Et même végétarien, ça les saoulait, la direction, une fois ils ont dit genre « Oh mais tu vas pas bien guérir si tu manges pas de la viande, etc. » Et on m'empêchait donc de passer la nuit dans la chambre de Michael, et vice-versa, c'était totalement interdit, alors qu'on a genre 30 ans ou 25 ans, enfin... Et je ne t'apprends rien, je pense que des relations intimes, amicales, amoureuses et ou sexuelles peuvent accélérer la guérison, la rémission ou simplement améliorer la santé mentale des personnes hospitalisées si elles souhaitent avoir ce genre de relations. Personnellement, j'ai passé de très heureuses semaines dans ce centre de rééducation en partie grâce à ma relation avec Michael. Mais bon, voilà, moi je reste une personne valide, mon vécu de 6 petites semaines à l'hôpital, ça n'a vraiment rien d'universel et je ne prescris à personne d'avoir des relations à l'hôpital. Chacun, chacune fait ce qu'elle veut ou peut. Bref, donc à partir de... Enfin, forcément, je me faisais quand même pas mal chier à l'hôpital, donc en tant que journaliste, j'avais plein d'idées de sujets. Et donc j'ai décidé d'écrire sur le sujet de la sexualité à l'hôpital une enquête, un papier pour le magazine Néon qui a été publié en décembre 2018, donc un an après. Je l'ai titré « Sexe à l'hôpital, le dernier tabou ». J'ai interrogé d'autres pensionnaires du centre de rééducation de Châtillon pour comprendre leur rapport à la sexualité pendant leur hospitalisation. Donc il y a par exemple Mickaël, mais il y en a d'autres. Donc si ça t'intéresse d'avoir d'autres points de vue que le mien, je te conseille vraiment de lire cet article que j'ai mis sur mon blog et dont je mets le lien dans la description de cet épisode. Donc dans l'article, je raconte aussi mon histoire d'amour et de sexe avec Michael, mais dans l'article, il s'appelle pas Michael, il s'appelle Anthony, pour respecter son désir d'anonymat. Mais comme vous le savez, j'ai un rapport très ambivalent avec le respect de l'anonymat des mecs cis hétéros, notamment dans mon podcast. Donc là, il s'appelle Michael dans ce podcast. Mais dans l'article, il s'appelle Anthony. Donc je suis vraiment fière de cette pige, parce que c'était ma deuxième pige, et c'est un super papier, et c'est un peu dur parce que la plupart des personnes que j'interviewe dans le papier, elles sont pas comme moi, elles sont pas en train de dire « Ah, trop bien, j'ai baisé à l'hôpital », y en a qui sont super frustrées de pas pouvoir baiser, il y en a qui sont super malades et qui souffrent, et leur mariage a sombré depuis, il y a plus aucune libido de relation sexuelle, il y en a une autre, c'est une dame... de 50 ans qui a un AVC, elle harcèle les mecs, les jeunes mecs du centre de rééducation pour coucher avec eux. Enfin, vraiment, il y a des cas spécifiques et on est vraiment vraiment différents. Il y en a qui ont honte, en fait, qu'on les voit à l'hôpital, donc ils osent même pas inviter leurs copines là. Il y en a qui sont vraiment mal en point à cause d'un AVC, et puis... le rapport au corps, il change vachement. La confiance en soi, les personnes qui ont été amputées. Et puis après, il y a tout le problème des violences sexuelles à l'hôpital, des infirmières ou aides-soignantes qui sont harcelées ou agressées par des patients-patientes. En fait, tout ça, ça vient du fait aussi que... comme la sexualité, c'est un impensé... les personnes, elles sont ultra seules à l'hôpital. Bon, après, les violences sexuelles, c'est autre chose. Hein. C'est pas parce qu'on est seul qu'on doit violencer d'autres personnes. Mais il y a vraiment des énormes crushs qui se nouent. Et en fait, c'est juste un territoire totalement ignoré par la pop culture. Enfin, je sais pas, il y a juste la série Les Bracelets Rouges sur TF1 où on parlait un peu de... vite fait d'amour, mais c'était des ados qui étaient malades, donc ça va, les ados, ils ont quand même le droit d'avoir une... Même pas une libido, juste des sentiments, mais dès que c'est plus que... Ouais, plus que 30, 40, 50 ans, là, il y a plus personne, mais enfin, voilà. Moi, ça passait encore, tu vois, que je sortais avec Michael, parce que c'était une relation hétéro entre personnes jeunes et blanches, mais... Voilà. C'est vraiment compliqué comme sujet. Et j'ai aussi écrit un article sur la malbouffe à l'hôpital sur mon blog aussi, vous pouvez la lire. Elle s'appelle Malbouffe. L'article s'appelle Malbouffe, alcool, tabac. Malbouffe, alcool et tabac au milieu de. Oh, je vais y arriver. Malbouffe, alcool et tabac au menu de l'hôpital. Donc je l'ai aussi publié en 2018. Donc en fait, ce qui m'avait choqué à l'hôpital, c'est que on passe. Les gens passent leur temps à nous mansplainer, genre ce qu'on doit faire pour nous remettre, pour aller mieux, pour se guérir et tout. Mais en fait, on bouffe de la merde. Genre déjà, nos régimes alimentaires sont pas respectés, que ce soit vegan, végétarien, halal, kasher. Enfin, il y a rien qui est respecté. Ou alors, on nous donne de la merde à la place. Et puis même, les régimes de base, c'est vraiment pas équilibré. Ça donne pas envie de manger. Et quand on sait qu'à l'hôpital, bon, je vais pas vous apprendre, les menus sont immondes, alors que les gens qui sont à l'hôpital, elles ont justement besoin de manger et pour avoir de la force, les personnes âgées et tout. Après, on leur mixe des trucs. Enfin, comment tu peux avoir envie de manger un truc pareil? Et tout, en fait, tout vient du fait que les hôpitaux mettent un budget ridicule pour la bouffe. Du coup, c'est des grandes chaînes de distribution qui leur acheminent des produits pourris. Mais en fait, c'est pas du tout impossible de proposer quelque chose de mieux. Enfin, c'est juste une volonté politique de pas mettre d'argent dans la bouffe, alors que c'est tout aussi important que les soins, enfin, je pense. Et après, il y a toute la problématique de l'alcool et du tabac, parce que, par exemple, les EHPAD, les établissements pour personnes âgées, on sert de l'alcool à table. Alors que à l'hôpital ou en centre de rééducation, ça serait impossible. Donc, c'est pas hyper logique, je trouve. Et puis, du coup, comme la plupart des établissements, il n'y a pas le droit à l'alcool, et ben, en fait, et qu'on bouffe de la merde, et qu'il n'y a pas de sexe, et qu'on se fait chier, et qu'il n'y a pas Internet, bah en fait, les personnes, elles se réfugient dans le tabac, donc devant l'hôpital, bah, ou le centre d'éducation et tout, genre, t'as des dizaines de patients-patientes qui fument, et donc il y a des cendriers et tout, et là, personne ne leur dit rien. En même temps, tu vas pas dire à des gens qui ont rien d'autre comme occupation de pas fumer, enfin voilà, quand on est malade, enfin... Je suppose que leurs médecins leur disent quand même de pas fumer, mais tu vois, c'est pas du tout logique de dire vous allez bouffer de la merde, on va vous interdire toute distraction, mais par contre, vous pouvez vous niquer la santé avec le tabac, ça, si c'est devant l'établissement, on s'en fout. Donc voilà, j'ai fait cet article parce que ça me démangeait, mais ça a déjà été fait 1000 fois. Voilà pour l'épisode. J'espère que ça t'a plu. Qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure ? Moi, vraiment, j'ai voulu faire cet épisode parce que ça m'a vraiment marqué. Je pensais pas du tout baiser à l'hôpital, en fait. Et c'était une expérience super chelou. Déjà, j'étais privilégiée d'avoir une chambre seule parce que c'est plus cher. Donc, ça, c'est pris en charge par certaines mutuelles, mais pas tout le monde. Donc, c'est sûr que si on a une chambre partagée, bah... enfin voilà, si on couche pas avec la personne avec qui on partage la chambre, bah du coup on peut pas inviter notre partenaire dans la chambre. Il y a la problématique que les aides-soignants, les personnels soignants peuvent rentrer dans la chambre à tout moment puisqu'on peut pas fermer la clé, donc il y a aucune intimité. Donc si on est en train de baiser, bah d'ailleurs on s'est déjà fait surprendre avec Mickaël une fois, je crois, deux jours, hein, tu vois, genre les gens ils rentrent, c'est comme un moulin quoi, ils toquent à peine, enfin c'est l'enfer. Et ouais, du coup, moi, c'est passé super vite les 6 semaines, quoi. Voilà. Enfin, voilà. Si vous avez un retour sur l'épisode, si vous avez vécu quelque chose de similaire ou tout autre, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Donc, écrivez-moi. Mon pseudo, c'est Marie-Albert FR sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi écouter mon deuxième podcast qui s'appelle Sologamie. Dans lequel on décortique d'autres enjeux, les enjeux du célibat, de la vie solo, de l'injonction au couple et à l'hétérosexualité, donc avec des personnes expertes chaque premier mardi du mois, Sologamie. Et pour ce qui est de Marie sans fil, bah, je reviens le mois prochain, le deuxième vendredi, avec un nouvel épisode personnel. Là, j'ai fini une série de 3 épisodes sur le sexe. Il y avait J'arrête la pénétration, Je sors en club échangiste et Je fais l'amour à l'hôpital. Donc, je pense que je vais passer à un autre registre, mais c'était des sujets, des épisodes que j'avais en tête depuis des années et donc je les ai enfin faits. Si vous avez aimé cette série ou ce 40e épisode, ou si vous aimez tout simplement Marie sans filtre, c'est le moment de mettre 5 étoiles sur votre application de podcast. Maintenant, on peut le faire aussi sur Spotify. Et vous pouvez aussi lui mettre un commentaire. Je le dis à chaque épisode et personne ne le fait. Et enfin non, pas du tout personne ne le fait. Il y en a qui le font, mais je veux dire, vous êtes beaucoup plus prompt à m'envoyer un message, ce qui est vachement bien. Si vous pouviez juste cliquer sur 5 étoiles, ça permettrait aussi que le podcast soit écouté par plus de personnes et qu'il soit utile à plus de personnes. Donc je sais, c'est très chiant à faire, mais moi des fois je me fais des sessions comme ça où je note tous les podcasts que j'aime bien et je donne 5 étoiles et je commente tous les podcasts que j'aime bien. Et comme ça on se soutient entre confrères, consoeurs, et je trouve ça cool. Parce que du coup dans tous les podcasts les gens disent mettez 5 étoiles et commentez sur votre application de podcast, et en fait... c'est compliqué, mais Merci si vous le faites. ce mois-ci, je veux aussi remercier les personnes qui soutiennent financièrement mon travail. Donc, merci Abdel, Elsa, Manon, Lauriane, Aristide, Mathilde, Kevin, Fania, Lou, Héloïse, Thomas, Mathieu, Blandine, Tara, Florian, Ellie, Elsa, Ruth, Aude et Emery pour leurs dons réguliers à ma cagnotte Tipeee. Chers auditeurs, si vous aussi vous souhaitez soutenir et rémunérer une partie de mon travail, vous pouvez vous rendre sur la page de cette cagnotte dont j'ai mis le lien dans la description de cet épisode pour faire un don ponctuel ou récurrent. Par exemple, si vous donnez 3 euros par mois, c'est le top du top. Ça va vraiment m'aider beaucoup à développer mon travail, à continuer à faire mes podcasts. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter gratuite pour recevoir de mes nouvelles régulièrement. J'ai mis le lien dans la description. Merci beaucoup. Au mois prochain pour un nouvel épisode de Marie sans filtre. Bisous. Bisous.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.